Bonjour, Noah a osé le dire, l'émission mensuelle le quatrième jeudi de chaque mois. Nous nous retrouvons après une longue période d'absence puisque l'été s'est écoulé et que au mois de septembre, eh bien, il y avait les fêtes. Donc l'émission n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, donc je vous rappelle donc que Noah est une ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes qui subissent des violences conjugales, que vous pouvez nous joindre du lundi au jeudi de 10h à 16h sans interruption au numéro suivant, le 01 47 07 39 55, je répète, au 01 47 07 39 55, que vous pouvez également consulter notre site internet noahoserledire.fr. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Isabelle Steyer. Je ne vais pas y arriver. Vous êtes spécialiste en droit de la famille, en droit pénal, et vous allez nous expliquer aujourd'hui comment constituer un dossier et l'importance justement lorsque ces femmes qui subissent des violences conjugales viennent vous consulter pour entamer une procédure de divorce, l'importance d'avoir au préalable préparé le terrain, si j'ose dire.
Oui. Oui, alors, ce qui est extrêmement important, c'est lorsque l'on subit des violences physiques, c'est d'aller tout de suite faire constater et ou déposer plainte. C'est déterminant. Pourquoi est-ce que c'est déterminant ? Parce que beaucoup de femmes se plaignent de violences psychologiques, donc de violences beaucoup plus difficiles à prouver. Et lorsque j'ai dans un dossier des violences physiques, eh bien j'ai la concrétisation de ce que j'allègue. Donc c'est extrêmement pratique au niveau de la preuve. Le droit se limite à la preuve, il faut bien le savoir. On ne peut parler que de ce que l'on peut prouver. Et un bleu, un coup, des griffures, des hématomes, cela se constate. Alors comment doit-on faire ? On doit d'abord aller déposer une plainte, c'est-à-dire aller au commissariat de son lieu de résidence, qui est le plus pratique pour la suite de la procédure. Et ce commissariat va vous adresser, en région parisienne et dans les grandes villes, aux unités médico-judiciaires, c'est-à-dire à l'hôpital qui dispose d'un service médical expert et qui va constater ce qu'il s'est passé sur votre corps. Et donc, il y aura un petit schéma qui sera grimé par le médecin en fonction de l'endroit et de la grandeur des blessures. Et ce médecin va, ce que l'on appelle, indiquer une incapacité de travail temporaire. Alors, il faut bien dire que l'incapacité de travail temporaire, dans notre jargon, on l'appelle ITT, ce n'est pas l'arrêt de travail. Donc, des femmes qui ne travaillent pas, qui seraient déjà en arrêt, qui seraient en congé parental, doivent aller déposer plainte, quand bien même elles pensent que ça ne sert à rien parce qu'elles ne travaillent pas. Il faut bien le dire, là. C'est très important. Qu'est-ce que c'est l'ITT ? C'est en fait une façon un petit peu de quantifier la grandeur de la blessure. Alors, il y a une part de subjectivité, on s'en rend compte. Mais c'est vrai qu'une ITT de 1 jour, ce n'est pas une ITT de 6 jours. Une femme qui a une ITT de 6 jours est une femme qui a des marques très présentes sur le visage ou sur le corps. Un jour, ce sera plutôt une griffure. Donc, ça nous donne déjà une idée de l'importance. Voilà. Et c'est important. C'est d'autant plus important qu'après, le médecin va expliquer les doléances, dire les plaintes de la victime, et va donc examiner le retentissement psychologique, notamment en mettant retentissement psychologique plus 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 4 plus, et déjà on aura une première sensibilité de combien elle a été meurtrie par une tierce personne qui n'est pas le médecin traitant, qui n'est pas le médecin de la famille, qui donc n'a aucun intérêt à rajouter un petit peu, si tenté soit-il que le médecin en rajoute un petit peu. Il ne connaît pas monsieur et ça restera secret, ça restera dans la procédure.
Voilà. Alors Isabelle, je voulais vous demander une petite précision. Ce que nous répétons aux femmes qui nous téléphonent, c'est qu'une main courante ne sert à rien. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce point ?
Oui, alors, c'est une question très compliquée. qui a évolué. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé ce métier, la main courante était une façon déjà, on disait que c'était un début à quelque chose, parce que ça permettait déjà aux femmes d'entrer dans le commissariat. C'est pas facile de voir ce qu'était le commissariat et de se mettre en posture. C'était un peu le faux départ, hein, mais ça permet de voir. Donc finalement, psychiquement, ça ne sert pas à rien. Et puis ça permet quand même de dater un événement, parce qu'après, 2 ans après, on se dit, ben, c'est vrai que ce jour-là, il m'a donné une gifle, il m'a insulté, mais je ne sais plus quand est-ce que c'est, et il y en a tellement eu. Hein. Mmh. Donc c'est vrai qu'au niveau de la preuve, ça ne sert à rien. Mais ça va me permettre à moi de construire l'histoire de la violence conjugale subie par madame, et de venir démontrer des choses que je sais quand on est spécialisé, c'est-à-dire qu'il y a une progression généralement dans la violence, à des moments particuliers du couple, notamment la grossesse, la venue des enfants, l'accouchement, les changements de vie aussi, s'il y a un déménagement ou un changement de profession. Tout ça, ce sont des moments extrêmement fragiles et qui permettent, entre guillemets, le passage à l'acte. Donc ça sert à rien pour la preuve, ça sert pour la femme souvent qui se dit « je date, je fais un premier pas, je vois » et ça sert à reconstituer l'histoire. Mais ça sert plus à sa défense dans sa relation avec l'avocat qu'à prouver quoi que ce soit.
D'accord, j'ai compris. Voilà. Et pour repréciser encore quelque chose que vous avez évoqué dans la première partie, est-ce que le fait d'aller faire constater les coups, les blessures, les griffures par un médecin généraliste peut apporter un élément de preuve si la personne ne va pas, sur réquisition de la police, consulter aux urgences médico-judiciaires?
Oui, alors... Dans les secteurs dans lesquels il y a les services des unités médico-judiciaires, il est obligatoire d'y aller. Et si on n'y va pas, ce sera analysé, ça risque d'être analysé comme un abandon de procédure. Et donc, finalement, quelque part, un retrait de plainte. Mais je préfère un constat par le biais d'un médecin, d'SOS médecin traitant ou bon, d'un médecin généraliste, plutôt que rien. Parce que ce constat-là, il va exister. Donc, s'il y a un pas en arrière, on sait que la vie, c'est 3 pas en avant, 2 pas en arrière, surtout dans les violences conjugales, mais je vais pouvoir le conserver. Et je vais pouvoir avoir le médecin qui va avoir constaté ces blessures-là. Alors, ces médecins ne sont pas habitués, c'est pas qu'ils ne sont pas habilités, mais ils ne sont pas habitués à faire ces certificats médicaux. Donc, il faut bien dire à ces médecins qu'ils soient précis. Hein. C'est-à-dire, regarder tout le corps, et vraiment venir nous indiquer sur quelle partie du corps il y a des bleus d'âge différents, des égratignures, des ripages, parfois les femmes sont tirées, tout ce que l'on peut constater sur le corps. C'est extrêmement important de pouvoir après reprendre ça plus tard dans les procédures, puisque souvent on a plusieurs certificats médicaux au cours de la vie d'une femme victime de violence. Hein.
Alors, je vais insister encore beaucoup sur sur les preuves. Est-ce que des photos, par exemple, ou des témoignages d'amis ou de gens de la famille peuvent vous être utiles en cas de procédure de divorce?
Alors, tout est utile. Tout est utile parce que on est dans le huis clos familial. On est dans le secret, en plus souvent familial. Les femmes n'osent pas parler, n'osent pas le dire à leur famille. Donc, les seules personnes que l'on est sont les proches. Quand on a la chance d'avoir des proches qui témoignent, c'est déjà une première chance. Ce n'est pas souvent le cas. Alors, il faut que ces témoignages, pour qu'ils soient très utilisables, soient d'abord clairs, précis, circonstanciés et factuels. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire dans un témoignage que monsieur est un gendre qui est le dernier des derniers. Voilà, il ne faut pas porter de jugement de valeur. Il faut décrire qu'il s'agissait d'un repas en passant en famille, qu'à un moment donné, monsieur, à telle date, a prononcé tel mot à l'égard de sa femme, il s'est mis en colère, il était rouge, il a tapé un coup de poing sur la table. Vous voyez, me donner de la matière à, finalement, comme si j'étais un scénariste et comme si je devais être une actrice qui doit jouer la scène et s'imaginer que le juge est devant cette scène-là. Et c'est vrai qu'un témoignage extrêmement précis va emporter la conviction, un témoignage modéré, sans jugement de valeur, va emporter la conviction, alors même qu'il émane d'un frère, d'une sœur, d'un cousin, de la famille. Donc il en a d'autant plus de valeur. Donc c'est important. Les photos, c'est important à condition de pouvoir les dater. C'est souvent le problème. Alors maintenant, avec les ordinateurs, on peut les dater. Je crois qu'on peut aussi modifier la date. Mais bon, on peut les dater. On peut éventuellement faire constater ce jour-là, par ne serait-ce qu'une amie, que cette photo existe. Donc ça peut donner date certaine ou plus certaine. Et le seul souci, et dans ces cas-là, quand on a une photo, de savoir qui a commis ces violences-là pour que cette femme présente autant de blessures. Voilà. C'est un peu le problème de l'imputabilité. Qui a commis ces faits? Mais déjà, on a une preuve vivante de l'ampleur des blessures. Et quand on n'est pas médecin, quand on va juger un dossier... Et quand on va le défendre, il faut avoir la conviction de ce que l'on défend. Et je crois que c'est extrêmement important de concrétiser comment c'est. Parce que 3 jours d'incapacité de travail, souvent, on se dit c'est rien. Et en fait, je vois arriver des victimes qui ont, excuse-moi l'expression, quasiment la tête au carré. Voilà. Et c'est vrai qu'avoir un œil au beurre noir, une paupière fermée, c'est 5 jours d'ITT actuellement sur Paris. Et il faut voir ce que c'est 5 jours d'ITT d'un hôpital. C'est peut-être beaucoup plus quand on va voir un médecin en ville.
Maître Isabelle Steyer, nous allons faire une petite pause musicale et nous reprendrons cet entretien tout de suite après.
מעצמי ודי הייתי, לא הייתי אני אסגור מאחורי גבי שוב לא יוכל לגעת בי בתהומות ליבי טעיתי, לא הייתי אני שבפניי הרקנות שוב לא תכה המציאות שתחכה שוב לא אבכה שאתנחם מעט ואת אל מי את צוחקת כשאת שוב לא מחבקת כמעט עלית בי לרגע הייתי אחר אם הייתי יודע שאת אל מי את מקרבת מרחק במי את מתאהבת את מי לא עוזבת אם רק היית נשארת, הייתי עושה אותך מאושרת. ושוב הולך אותה העיר, אותם פנים אני מכיר, את הריחות שבאוויר. טעיתי, לא ראיתי אותך, כולן דומות פתאום יותר. כל שיר עושה להיזכר, מכל צלצול הלב עוצר. נגעתי, לא הרגשתי אותך. ולעולם שוב לא רוצה להתאהב האהבה שתרכב הרגישות שתשרף לאט ואת מי את צוחקת כשאת שוב לא מחבקת כמעט עלית בי לרגע הייתי אחר אם הייתי יודע שאת אל מי את מקרבת מרחק במי את מתאהבת את מי לא עוזבת אם רק היית נשארת הייתי עושה אותך מאושרת ואת במי את נוגעת לאט במי את פוגעת כמעט כמו את שפצעת בי את כל העולם את גילית ולקחת לי כך מי זה שעכשיו נוגע בך אני מקווה שהוא מאושר שיש לו אותך לא מכאיב לך בך לא פוגע הייתי כזה אם הייתי יודע
Nous reprenons cet entretien avec Maître Isabelle Steyer, qui est spécialisée dans le droit de la famille et dans le droit pénal. Vous êtes à l'écoute de l'émission de l'association Noah Osez le dire, ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes qui subissent des violences conjugales. Notre permanence est ouverte du lundi au jeudi de 10h à 16h sans interruption. Vous pouvez nous joindre au numéro suivant, le 01 47 07 39 55 ou consulter notre site internet noahosezledire.fr. Nous avons développé dans une première partie avec Maître Steyer les éléments de preuve indispensables et très utiles pour développer, pour entamer une procédure de divorce. Donc, dans une deuxième partie, vous allez nous expliquer, à partir du moment où une femme vient vous voir avec des éléments de preuve, le déroulement de cette procédure de divorce.
Alors, on va admettre que cette femme vient de déposer plainte. Elle a donc entre les mains, il faut qu'elle ait entre les mains la copie de sa plainte. C'est extrêmement important. Elle y a droit et elle peut le demander, elle doit l'avoir, mais parfois il y a des résistances. Donc elle a la copie de sa plainte et normalement elle a la photocopie de son certificat médical. Donc on va avoir un élément extrêmement fort pour saisir en urgence le juge aux affaires familiales. Et on sait par expérience que c'est ce moment-là pendant lequel les femmes ont le plus peur, et c'est pendant cette période-là que les hommes peuvent, le cas échéant, peut-être un petit peu passer à l'acte. Donc il faut aller très vite. Ce que je fais, c'est que je fais une procédure d'urgence. Si ces femmes sont mariées, je fais ce que l'on appelle une assignation à jour fixe, en demandant donc en urgence une date au juge d'affaires familiales pour convoquer monsieur dans des délais qui sont relativement brefs, hein, pour que madame puisse obtenir l'attribution de son domicile, la résidence de ses enfants et une pension alimentaire pour elle et les enfants. Ce qui est déjà le premier pas, voire même quasiment la moitié de la procédure déjà faite en 15 jours. Voilà, c'est ça. Alors, je vais avec madame un jour de permanence voir le juge aux affaires familiales. Je rédige donc ma requête avec elle, dans laquelle j'indique quel est le projet de vie séparée, hein, donc où madame va résider. Généralement, donc, elle fait cette procédure pour garder le domicile. Quelles sont les demandes au titre des pensions alimentaires? De quoi elle a besoin? On fait un budget. C'est très important de faire un budget de la maison et des enfants, parce que souvent, on ne l'a pas fait, on ne se rend pas compte de ce que tout peut coûter. Et on va demander ces pensions alimentaires qui seront payables dès que l'on aura l'ordonnance. Donc dans des délais avec cette procédure court. On va attendre, c'est un peu comme à l'hôpital, on arrive à l'heure d'ouverture et puis on attend jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de personnes qui passent. Il faut y arriver, généralement arriver assez tôt. Et on va, ou pas, nous donner une date en urgence, c'est-à-dire c'est l'autorisation de passer devant tout le monde finalement. Donc il faut quand même avoir des preuves dans le dossier. Et une plainte, c'est quelque chose qui généralement aboutit à une date en urgence. Pourquoi ? Parce que le magistrat sait très bien que monsieur va être convoqué par le commissariat. Donc quand il va être convoqué, il va être convoqué au domicile conjugal. Donc monsieur va recevoir dans la boîte aux lettres, après avoir un beau matin, la convocation au commissariat et va donc découvrir que son épouse a déposé plainte. Donc il faut impérativement qu'à ce moment-là, son épouse soit protégée. Et c'est la raison pour laquelle j'obtiens des dates à bref délai, de façon à ce que il ait soit été expulsé quand on reçoit cette date, soit que madame, ça pourrait être le cas, ait obtenu l'autorisation de quitter pendant quelques jours le domicile conjugal, le temps que monsieur soit convoqué. Parfois, on a aussi des femmes qui ont de la famille, qui peut pendant quelques jours, bon, uniquement quelques jours. Et c'est vrai que cette procédure, elle donne un gros coup de pouce, parce que madame va avoir très rapidement le domicile, la résidence des enfants et la pension alimentaire, ce qui est déterminant. Parce qu'après, qu'est-ce qui va rester ? Il va falloir établir, c'est vrai, les violences, si on veut divorcer pour des faits de violence. On va avoir l'audience pénale, puisque monsieur risquera d'être convoqué devant un tribunal correctionnel. Il faut pouvoir là aussi plaider, s'y préparer. Émotionnellement, c'est très fort. Et puis préparer aussi la suite du divorce, c'est-à-dire ce que l'on appelle la prestation compensatoire. C'est la somme d'argent que pourra réclamer madame si elle n'a pas travaillé, si évidemment monsieur travaille et qu'elle a élevé des enfants, ou étant donné la disparité de salaire, un petit, une somme en capital ou l'attribution d'un bien pour compenser cette disparité liée à la séparation. Donc moi je fais cette procédure. On a une autre procédure pour les femmes non mariées. C'est beaucoup plus facile lorsque les femmes sont mariées. Hein. Pour les femmes non mariées, on peut faire un référé en urgence, mais le juge n'est pas compétent pour attribuer le domicile familial.
D'accord.
Donc c'est là le gros problème que l'on rencontre, c'est avec les femmes non mariées. Eh bien, si elles veulent vraiment être protégées, c'est vrai que c'est à elles de partir. Hein, voilà. Puisque on s'est situé hors du droit, le droit nous ignore. Et donc, il est beaucoup plus simple dans ces cas-là de trouver un autre logement en termes judiciaires, j'entends
oui,
je bien, parce
bien.
Que je ne peux pas le leur obtenir. Il y a une troisième option qui est l'ordonnance de protection, qui est utile notamment pour ces femmes-là, qui est d'obtenir en urgence justement une date pour faire expulser monsieur, avoir une pension alimentaire et la résidence des enfants. Mais attention, c'est aujourd'hui une mesure qui n'est valable que 4 mois. 4 mois plus tard, monsieur a le droit de revenir au domicile conjugal si la femme est concubine ou pacsée. Donc, 4 mois, ça peut permettre de souffler, ça peut permettre de trouver un appartement, mais il faut savoir que c'est un tout petit sas qui permet après de rebondir sur quelque chose. Ce n'est pas une sortie de crise, hein, pas du tout. Mais ça existe.
Maître Steyer, nous arrivons au terme malheureusement de cette émission, puisque c'était fort intéressant et instructif de connaître les démarches et les preuves à conserver pour pouvoir procéder à un divorce. Avant de terminer, je voudrais savoir si vous avez une conclusion.
Je crois qu'il ne faut jamais rester dans le secret des violences. Hein, c'est quelque chose qui mine. Et donc, dites-le autour de vous. Écrivez-le sur un carnet que vous ne laissez pas au domicile. À la limite, faites plutôt des mains courantes plutôt que rien. Mais ne restez pas avec ça. Ça va vous détruire. Hein. Et réfléchissez à un autre projet de vie. Il faut du temps pour élaborer. C'est normal. Vos questions sont normales. Faites-vous aider de professionnels. Ils savent que c'est une situation qui est compliquée. Vous êtes dans une toile d'araignée, mais on peut vous en sortir. On a des gens qui sont très compétents, comme notamment l'association NOAH.
Maître Steyer, je vous remercie. Puis surtout, je vous remercie pour ce message optimiste. Je pense qu'il va donner un peu de bien-être à ces femmes. Vous étiez à l'écoute de l'émission de l'association NOAH, Osez le dire, ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes qui subissent des violences conjugales. Vous pouvez nous joindre du lundi au jeudi de 10h à 16h sans interruption au numéro suivant, le 01 47 07 39 55 01 47 07 39 55.